podcast RFI.
De grands couloirs, les bruits qui résonnent, des tourniquets, des portillons par lesquels chacun doit passer avant de faire contrôler ses bagages au rayon X. Il est 6h du matin et je traverse le poste de contrôle appelé Checkpoint 300 qui se trouve entre Bethléem et Jérusalem. En temps normal, des dizaines de milliers de Palestiniens le franchissent quotidiennement pour travailler ou étudier de ce côté-ci du mur. Dans les couloirs, il faut jouer un peu des coudes pour garder sa place dans la file. Mais le passage se fait sans échange avec les agents de sécurité. Les contrôles sont automatisés. Les permis donnés par Israël sont vérifiés par des lecteurs de cartes biométriques. Une fois de ce côté-ci du mur, les Palestiniens montent dans des bus qui les attendent pour les emmener à l'intérieur de Jérusalem. Jérusalem, c'est probablement la ville la plus disputée de l'ensemble de ce territoire. La ville trois fois sainte, dit-on. Ville sainte pour les Juifs qui y avaient construit dans l'Antiquité leur temple. Ville sainte pour les chrétiens qui y situent la crucifixion et la résurrection de Jésus. Ville sainte enfin pour les musulmans, pour qui Mahomet aurait pris son envol pour les cieux depuis ce qui est aujourd'hui l'esplanade des mosquées située à l'emplacement de l'ancien temple juif. En 1947, lorsque les Nations Unies ont discuté du partage du territoire entre Juifs et Arabes, elles ont accordé à Jérusalem un statut à part, le Corpus Separatum. Chacun des deux pays à naître la voulait comme capitale. Pour éviter de trancher, l'ONU, récemment créée, avait choisi de ne la confier à personne et de la placer sous mandat international. Mais sur le terrain, cette solution n'a jamais été appliquée. En 1948, une partie de la ville est passée sous contrôle israélien, une autre sous contrôle jordanien. Chaque pays exerçait sa souveraineté sur sa partie de la ville. En juin 1967, au cours de la guerre des Six Jours, Israël a pris le contrôle de l'ensemble de la ville et annexe la partie est. En 1980, une loi déclare Jérusalem unie et indivisible comme capitale éternelle du pays. En droit international, cette annexion de Jérusalem-Est n'a jamais été reconnue. Et la partie orientale de la ville reste considérée comme un territoire occupé. Les Palestiniens la revendiquent toujours comme capitale de l'État qu'ils appellent de leur vœu. Mais aujourd'hui, pour la très grande majorité d'entre eux, Jérusalem est une ville inaccessible, située au-delà de murs ou de barrières. Les deux revendications demeurent en opposition directe. Je suis Guilhem Delteil, grand reporter à RFI. Vous écoutez Palestiniens, épisode 3, carte d'identité Yérosolimitain.
Nous sommes ici dans le quartier de Baqa, qu'on appelle aussi la colonie allemande, parce que les premiers Allemands, en 19e siècle, sont venus s'installer ici.
Pour commencer, je vous propose de faire la rencontre de Houda El-Imam. Houda est née et vit à Jérusalem. Elle est issue d'une longue lignée yérosolimitaine. C'est l'adjectif français qui se rapporte à Jérusalem. Houda est une figure dans la ville, très engagée pour préserver l'identité palestinienne à travers la culture. Le jour de notre rencontre, elle porte d'ailleurs un t-shirt avec une pastèque, fruit devenu un symbole palestinien, et un pendentif représentant le territoire palestinien avant la création d'Israël. Elle a également joué dans quelques films. J'avais fait sa connaissance à des événements culturels lorsque j'habitais moi-même à Jérusalem. J'ai voulu la rencontrer cette fois-ci pour évoquer son histoire familiale, celle de son père aujourd'hui décédé. En 1948, la distinction entre Jérusalem-Est et Ouest n'existait pas. Et il y avait des familles juives qui habitaient à l'Est, la partie tombée sous contrôle jordanien au terme de la première guerre israélo-arabe, et des familles palestiniennes à l'Ouest, dans les quartiers conquis par Israël. Le père de Houda El-Imam était de ceux-là.
Toutes les maisons ici sont des maisons palestiniennes, donc chrétiennes, musulmans, mais aussi juifs qui habitaient là. Ici, on s'approche au quartier de Greek Colony, où le grec, on peut prendre à droite. où la communauté grecque est venue s'installer ici en 19e siècle. Donc ce quartier de Bakka habitait des familles palestiniennes. Ici, la maison de mon oncle, Fouad el-Imam. Elle est assez modeste, cette maison, parce que mon oncle, qui a fait l'université à l'Azhar, il est devenu le directeur du Waqf islamique. Mon père, qui a fait le tourisme, archéologie, tout ça, il a fait plus d'argent que son frère. Donc, il a bâti une plus belle maison. Mais toutes les deux maisons, que ce soit modeste ou belle architecture, comme on voit bien ici, confisquées, pareil.
Le plan de partition de la Palestine a été adopté par l'ONU en novembre 1947. La population arabe, soutenue par les pays voisins, l'a immédiatement rejetée. C'est alors qu'ont commencé les combats contre les forces juives. L'armée israélienne n'existait pas en tant que telle. Il s'agissait de trois milices, dont deux étaient considérées comme terroristes par les autorités britanniques. En avril 1948, ces deux milices, l'Irgun et le Lehi, attaquent Deir Yassin, un village palestinien situé à l'ouest de Jérusalem. Une centaine de personnes a été tuée, et ce massacre, qui n'était pas le premier, a profondément marqué les esprits. Pendant la guerre, en 1948, ton père était où ?
Il était dans sa maison, ici, à Bakka. Et le jour où il y avait le massacre de Deir Yassin, à la radio palestinienne Huna al-Quds, qui était gérée par les Anglais, par les Britanniques, ils ont fait un appel à tous les Palestiniens de sortir de chez eux par sécurité pour sauver leur vie, parce que les mouvements sionistes terroristes massacraient tous les villages palestiniens. Et donc, Bakka, ici dans le quartier, là où on est, c'est tout près de Deir Yassin et de Malha et de Lifta. Donc, mon père a pris sa maman et il est allé à sa maison dans la vieille ville de Jérusalem, à côté de la mosquée Al-Aqsa, à Shari'a Bab el-Silsile.
C'est la maison qui est juste derrière, celle de ton père.
C'est celle-là, oui. On peut descendre quelques minutes. Je préfère qu'on garde la voiture allumée, parce que si la police vient, j'aimerais bien qu'on... Oui, je n'ai pas envie du tout d'être déportée, parce que j'ai signé déjà ma déportation la dernière fois quand on m'a arrêtée.
Car Huda el-Imam aime venir se promener régulièrement devant cette maison construite par son père. Mais aujourd'hui, aux yeux de l'État d'Israël, elle n'a plus de droit sur cette propriété. À la fin de la première guerre israélo-arabe, le nouveau pays a recensé la population palestinienne présente sur son territoire et tous ceux qui n'étaient pas chez eux lors du passage des agents recenseurs ont perdu le droit de revenir. Leurs propriétés, quand elles n'ont pas été détruites, ont été nationalisées. Huda el-Imam a conservé les titres de propriété de son père, mais devant une cour israélienne, ils ne valent rien. Et même si elle reste dans la rue, les nouveaux occupants de la maison ne voient pas ses visites d'un bon œil. Il est arrivé qu'ils appellent la police et qu'elle soit interpellée.
Yalla, on descend ?
On descend. Arrivé devant la maison, Huda el-Imam sort son téléphone portable et se met à filmer depuis la rue à travers le portail de la propriété, cette belle demeure construite par son père.
Je vais retourner, je dis que je retourne dans la maison de mon père, que j'adore, et que j'aime beaucoup, que je c'est ma prière de venir tous les vendredis. Ici, dans cette maison, je suis interdit d'entrer. Mais j'ai toujours l'espoir que je veux venir habiter ici. C'est mon droit et je voudrais bien exercer ce droit. Si ce n'est pas pendant mon époque et ma vie, ce sera, Inch'Allah, pour Hani, mon fils, et mes neveux, mes nièces.
En nous voyant, un homme marchant sur le trottoir d'en face s'arrête. Il dresse l'oreille, tente de comprendre notre échange en français. Il porte des vêtements noirs et blancs de juifs orthodoxes. Il est né à Jérusalem, mais il dit qu'il ne connaît pas l'histoire de ses maisons.
C'est quoi l'histoire ?
L'histoire est que mon père a construit cette maison en 1942. Et en 1948, lorsqu'Israël a été établi, ils ont immédiatement imposé une loi dite « loi des absents ». Et mon père était considéré comme absent parce qu'il avait voulu protéger sa mère. Il a quitté la maison avec la clé et en laissant tous ses biens à l'intérieur. Et il est parti dans les maisons qu'il avait dans la vieille ville de Jérusalem.
Donc vous dites qu'il y avait une loi, c'était une loi britannique ?
La loi des absents est une loi israélienne, comme toutes les lois qu'Israël impose aux Palestiniens, qu'ils soient absents ou présents, dans le but de procéder à un nettoyage ethnique, comme ils font en ce moment avec le génocide.
Je ne sais pas s'il s'agit de nettoyage ethnique.
Vous croyez que c'est quoi ? Si j'ai toujours la clé de la maison de mon père, mais que si la police arrive maintenant, ils vont m'expulser. Vous pensez que ce n'est pas un nettoyage ethnique ?
Je n'ai pas d'avis, car je ne connais pas toute l'histoire.
Mais vous ?
L'un et l'autre commencent à raconter leurs parcours familiaux. Mais l'échange semble mettre l'homme mal à l'aise. Il demande alors à ce que l'enregistrement cesse et finit par partir. À Jérusalem, Israéliens et Palestiniens peuvent se côtoyer dans le travail, mais rarement à titre personnel. Les deux mondes vivent côte à côte bien plus qu'ensemble et ces interactions spontanées en pleine rue sont rares. Mais ces échanges sont de nature à attirer les regards, l'attention. Pour éviter de prendre le risque de voir la police arriver, nous préférons nous aussi nous éloigner. Nous remontons en voiture et prenons la direction de l'Est, là où désormais Houda Al-Imam et sa famille doivent vivre. Nous retournons vers la vieille ville, la contournons. Puis empruntons une grande route construite à l'emplacement du mur qui divisait les deux parties de la ville entre 48 et 67 et entrons dans le quartier de Sheikh Jarrah. Houda Al-Imam nous souhaite la bienvenue chez elle. Là-bas, c'était ma maison à Baka. Ici, c'est ma maison à Sheikh Jarrah, dit-elle. Une maison que son père, qu'il a faite construire 10 ans après avoir été expulsé de la précédente, a voulu semblable à la maison perdue. La couleur des volets, les arbres dans le jardin sont identiques.
Ma maison que je chéris beaucoup parce que j'ai toujours très 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 peur qu'on la confisque comme on a fait avec la maison de mon père en 1948. Donc oui, cette maison c'est mon petit paradis. Parfois, je ne voyage même pas pour ne pas donner même la justification un jour que je sois absente. Donc, cette idée de absentie m'a un peu traumatisée depuis ma jeunesse. Quand la guerre de Gaza a commencé, les gens ont eu peur. J'ai dit à maman, est-ce que tu veux rester, tu veux partir ? Elle a dit non, pas question, on ne part pas, on ne quitte pas encore une fois. Ton père a quitté sa maison en 1948 juste pour aller dans sa maison, dans la vieille ville. Il est resté à Jérusalem et il était considéré absent. Donc vous vous rendez compte, si on quitte Sheikh Jarrah, on ne va pas encore être chassé d'ici. Et oui, c'est mon petit paradis parce qu'il y a toujours le neuflier, les citronniers, le même odeur des fleurs, des plantes, de la pierre blanche, rose de Jérusalem. Mais ce qui me fâche et me triste, c'est ce drapeau israélien qui est juste devant la maison. Et c'est une maison confisquée encore en 67.
Cette maison, située juste devant chez elle, est aujourd'hui occupée par le Shabak, les services de sécurité intérieure israéliens. Un grand drapeau israélien flotte au-dessus. Il s'agit d'une maison récupérée par Israël après la conquête de Jérusalem-Est, en vertu de la même loi des absents. Car celle-ci a permis à des administrations, mais aussi des citoyens juifs israéliens, de venir s'installer dans les quartiers historiques de la partie est de la ville. Un mouvement facilité aussi par une autre loi. La législation israélienne permet en effet aux Juifs de réclamer les propriétés qu'ils avaient à Jérusalem-Est avant 1948, mais n'accorde pas ce même droit aux Palestiniens qui avaient des propriétés à l'Ouest.
Silwan signifie tranquillité, sérénité. Mais plus rien de tout ça existe à Silwan. Depuis que les colons ont commencé à s'installer, nous qui vivons à Silwan considérons que nous vivons une seconde occupation.
Silwan est un quartier qui se trouve juste sous les murs de la vieille ville, au sud, dans la vallée du Kidron. Avec une source d'eau, cette zone était déjà habitée à l'époque biblique. Elle était un haut lieu de la Jérusalem juive dans l'Antiquité. Aujourd'hui, c'est un quartier de Jérusalem-Est, palestinien. Sahar Abbasi y a passé toute sa vie. Elle est directrice adjointe d'un centre de quartier, le centre d'information de Wadi Hilweh. La colonisation israélienne de Silwan a commencé à la fin des années 80. Moussa Al-Abbasi a été parmi les premiers à en faire les frais. Ce chauffeur de taxi palestinien fait alors la rencontre d'un guide touristique israélien, David Berry. Les deux hommes sympathisent. Moussa Al-Abbasi reçoit David Berry chez lui. David Berry est en réalité le fondateur d'une organisation nommée Elad. Son but revendiqué est de faire venir des familles juives dans ce quartier, considéré comme là où se trouvait le palais du roi David à l'époque biblique. Et sous couvert de rencontres amicales, David Berry prend des informations sur la maison familiale de Moussa Al-Abbasi. Certains membres de la famille sont partis vivre à l'étranger, dans des pays considérés comme ennemis. La loi des absents peut s'appliquer, une partie de la maison est confisquée par Israël et Moussa Al-Abbasi doit vivre avec des colons installés par celui qu'il prenait pour son ami.
Il y avait beaucoup de maisons qui ont été saisies en application de la même loi sur la propriété des absents. C'est surprenant de voir les ressources dont elles disposent, car elles ont la capacité de faire des recherches, de parcourir l'histoire de ces maisons et de trouver une sorte de faille. Elles peuvent utiliser n'importe quel levier. Je ne peux pas nier que certaines maisons ont aussi été vendues. Mais la majorité ont été vendues par l'intermédiaire de courtiers. Des Palestiniens qui ont la citoyenneté israélienne sont venus de différentes régions. Elle achetait votre maison, venez, vivez là pendant un an ou deux. C'est arrivé très souvent ici à Silwan. Et puis un jour, c'est le choc. Vous voyez des colons s'installer.
Aux yeux du droit international, l'installation de citoyens israéliens à Jérusalem-Est relève de la colonisation. Mais elle est encouragée par le gouvernement israélien. L'organisation israélienne anticolonisation, La Paix Maintenant, indique qu'à la fin des années 80, le ministre du Logement de l'époque, Ariel Sharon, avait mis en place un mécanisme facilitant le transfert de propriétés palestiniennes à Jérusalem-Est aux organisations de colons, comme Elad. Les autorités israéliennes ont aussi rendu possible un plus grand nombre d'expulsions de Palestiniens. Une loi autorise par exemple des Juifs expropriés en 1948, au moment de la division de la ville, à réclamer leur propriété. La réciproque, elle, n'est pas valable pour les Palestiniens. Ou des ordres d'expulsion sont émis au nom de l'aménagement de zones archéologiques et donc touristiques. À Silwan, désormais, environ un millier de colons israéliens vivent au milieu des Palestiniens, dans un quartier à forte densité. Ils vivent sous haute sécurité, gardes armés 24 heures sur 24, caméras de surveillance, murs de protection.
Ce qu'il y a à Silwan, c'est qu'il ne s'agit pas de personnes qui ont la possibilité de venir vivre et qui veulent vivre en bon voisin et avoir une vie normale. Nous parlons d'un groupe spécifique qui ont leur propre idéologie. Pour nous, ce sont des extrémistes. Ce sont des gens armés qui ont le soutien d'une sécurité armée privée, de forces israéliennes, de soldats, de la police, de forces spéciales. Il y a différents types de forces qui s'exercent également ici à Silwan. Ces gens viennent dans la zone avec la conviction que l'endroit leur appartient. Ils ne veulent pas le partager avec nous. Pour eux, c'est nous ou eux.
L'ambiance à Silwan a-t-elle profondément changé depuis l'arrivée de ces colons à la fin des années 80, début des années 90?
En fait, à Silwan, depuis ce moment-là, nous avons des confrontations presque quotidiennes avec la police. Les soldats, les services de sécurité privée, les colons eux-mêmes, ils sont armés. Les femmes comme les hommes. Et encore une fois, Silouane est un quartier très étroit et très peuplé. On partage les mêmes rues, les mêmes entrées, les mêmes places de parking. Alors oui, il y a d'affrontements presque quotidiens avec les colons, avec la police. C'est souvent à Silouane qu'il y a le plus grand nombre d'arrestations rapportées au nombre d'habitants, en particulier parmi les enfants. Moi, j'ai grandi à Silouane. Et mon enfance n'a rien à voir avec celle de mes enfants. Je ne les laisserai jamais passer de temps dehors, alors qu'à l'époque, nous passions la plupart de notre temps dans les rues. Mais aujourd'hui, c'est l'endroit le plus dangereux. Ce n'est pas sûr pour un enfant de sortir. Disons à 7 ou 6 ans d'avoir un ballon et d'y aller jouer. Si cela se produit, il est certain que quelque chose de grave arrivera à nouveau à ces enfants.
Les autorités israéliennes ont également construit de nouveaux lotissements à Jérusalem-Est. Et à quelques exceptions près, c'est une population juive israélienne qui s'y est installée. Selon l'organisation La Paix Maintenant, 230 000 colons vivaient en 2023 à Jérusalem-Est. La ville concentre à elle seule un tiers du nombre total de colons israéliens. C'est évidemment la dimension religieuse qui donne une telle importance à Jérusalem. Et de ces lieux saints, le plus sensible est l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam. Comme je le disais au début de cet épisode, elle a été construite sur les vestiges du temple juif détruit par les Romains. Certains juifs pratiquants souhaitent donc aussi venir y prier, et une frange fondamentaliste rêve même de détruire les mosquées pour y reconstruire le temple. C'est là que nous nous rendons à présent. L'esplanade des mosquées, c'est un grand espace à la limite est de la vieille ville, le long des remparts. La mosquée Al-Aqsa se trouve à l'extrémité sud, ses murs en pierre de Jérusalem, son dôme noir lui donne un charme discret. Au centre trône en revanche le dôme du rocher, une mosquée majestueuse aux murs en faïence bleue et un dôme doré qui reflète la lumière du soleil. Tout autour, des salles de prière, des écoles et des oliviers. L'esplanade des mosquées est un lieu de vie autant qu'un lieu de culte. Les tensions autour de l'esplanade des mosquées et du mur des Lamentations, qui en constituent la limite ouest, ne datent pas de la conquête de Jérusalem par Israël en 1967. Des affrontements meurtriers avaient déjà eu lieu en 1929, avec des répercussions dans d'autres villes, comme nous l'avons vu à Hébron dans l'épisode 2. Quand les troupes israéliennes sont entrées dans Jérusalem-Est lors de la guerre des Six Jours, les musulmans se sont interrogés sur les intentions de la nouvelle puissance occupante quant à leur lieu saint. Mais les autorités israéliennes ont alors rapidement voulu rassurer. J'ai rendez-vous avec Azam Al-Khatib. Il est le directeur du Waqf, la fondation islamique qui administre l'esplanade des mosquées. Les entrées sont strictement contrôlées par la police israélienne et il nous est interdit de prendre notre matériel d'enregistrement. C'est donc avec un simple téléphone que nous enregistrons cet entretien.
Dans les premiers jours de la guerre, le ministre de la Défense, Moshe Dayan, a rencontré les organismes islamiques et des personnalités islamiques de la ville de Jérusalem. C'était une rencontre non prévue et la raison en était inconnue. L'armée israélienne occupait toute la mosquée, elle avait même hissé le drapeau israélien au haut du dôme du rocher. Mais lorsque Moshe Dayan est venu, il a informé ses interlocuteurs de la décision du gouvernement israélien. La décision du gouvernement israélien stipulait que le département des dotations islamiques, le Waqf, était seul responsable de la gestion, de l'entretien et de la reconstruction des mosquées et de tous les biens religieux appartenant au Waqf à Jérusalem. Désormais, le gouvernement israélien n'avait plus rien à voir avec ça. Bien sûr, les personnalités islamiques lui ont demandé d'évacuer l'armée israélienne de la mosquée et de retirer le drapeau. Il a promis que 10 minutes plus tard, la mosquée serait évacuée et leur serait rendue. Et c'est ce qui s'est passé. Le drapeau a été abaissé et le département des dotations a commencé et mené à bien son travail en tant que responsable des lieux saints islamiques de la ville de Jérusalem et des tribunaux de la charia. Ce mode de fonctionnement a perduré jusqu'au 28 septembre 2000. Le statu quo a été respecté.
Le gouvernement israélien a donc rendu la gestion de l'esplanade des mosquées au Waqf, qui est resté sous l'autorité du roi de Jordanie. Au-dessus du bureau d'Azam al-Khatib est d'ailleurs accrochée une photo du roi Abdallah. C'est ce qu'on appelle le statu quo sur les lieux saints. Le 28 septembre 2000, auquel faisait référence le directeur du Waqf, c'est le jour où Ariel Sharon, chef de file de la droite israélienne, s'est rendu sur l'esplanade. Nous l'évoquions dans le précédent épisode, cette visite est considérée comme le point de départ de la seconde intifada. En réponse à cette visite, perçue comme une provocation par les Palestiniens, le Waqf a restreint l'accès à l'esplanade des mosquées aux seuls musulmans. Pendant près de 3 ans, l'accès a été interdit aux juifs, chrétiens ou croyants d'autres religions. Jusqu'au 26 avril 2003. Mais la réouverture partielle du site aux visiteurs non musulmans fut une décision des autorités israéliennes, et des autorités israéliennes seulement, souligne Azam al-Khatib.
À partir du 26 avril 2003, la police et les forces spéciales ont commencé à entrer sur l'esplanade des mosquées. À partir de là, le changement a commencé dans la mosquée Beni al-Aqsa. Maintenant, la police israélienne contrôle totalement la mosquée, comme si elle était occupée. Toutes ces portes ont une poignée de sécurité en fer. Les politiciens, les extrémistes, le gouvernement en général, ne reconnaissent pas cette mosquée. Ils la considèrent comme leur temple. Et ils ont autorisé les extrémistes à imposer une nouvelle réalité. Ils viennent accomplir des prières talmudiques, se prosternent. Ils essaient de changer la situation religieuse et historique.
Les règles du statu quo interdisent à toute autre religion que l'islam de prier sur l'esplanade des mosquées. Mais aujourd'hui, des groupes de juifs y viennent fréquemment avec des livres de prières et s'y recueillent sous la protection de la police israélienne. Beaucoup de Palestiniens craignent désormais que les autorités israéliennes aient pour projet de diviser le lieu entre juifs et musulmans, comme c'est le cas, nous l'avons vu dans l'épisode précédent, à la mosquée d'Ibrahim ou tombeau des patriarches d'Hébron. Et ces évolutions ont accentué les tensions autour de ce lieu saint. J'ai de Pierre Palestinien, intervention des forces israéliennes dans la mosquée Al-Aqsa, arrestation de personnes dans ce lieu saint. Ce sont des scènes qui existent désormais. Et la mosquée Al-Aqsa porte les traces de ces affrontements. Des impacts de balles dans la pierre ou des menuiseries cassées, par exemple. Et les travaux de rénovation sont rendus difficiles, voire impossibles, indique Azam al-Khatib.
Il perturbe le travail du Waqf. Ils bloquent des projets et des travaux. Ils arrêtent les employés et leur interdisent l'accès. De nombreux ministres et membres de la Knesset ne reconnaissent pas la tutelle de Sa Majesté le Roi sur les lieux saints islamiques. Et ils le déclarent ouvertement.
Le responsable religieux s'agace. « J'ai besoin d'une autorisation même pour changer une ampoule dans mon bureau », précise-t-il. Ces dernières décennies, la situation de l'esplanade des mosquées a profondément changé. Aujourd'hui, les policiers israéliens y patrouillent, mais occupent aussi 4 bâtiments du Waqf pour les besoins de leurs opérations. Certains locaux, confiés à des associations ou des écoles, ont été fermés. Israël reproche la diffusion d'un discours radical et invoque des motifs sécuritaires. Mais pour les Palestiniens musulmans, c'est une atteinte à la souveraineté jordanienne sur les lieux.
Nous souhaitons qu'il y ait des personnes rationnelles parmi les Israéliens pour rétablir la situation telle qu'elle était en 1967. C'est notre véritable exigence, que le statu quo qui était en 67 et avant 67 revienne. Sinon, la situation deviendra dangereuse et difficile. Aucun musulman n'accepte les actions menées par des extrémistes dans la mosquée Beni al-Aqsa.
Nous voici à présent devant la porte de Damas. C'est l'une des 7 portes d'entrée dans la vieille ville. Elle est taillée dans la muraille. Cette porte de Damas est la principale porte de la vieille ville pour les Palestiniens. Il y a la porte de Jaffa qui donne vers l'ouest et la partie juive de la ville. Celle-ci est tournée vers les quartiers de Wadi Joz, Sheikh Jarrah et 3 gares routières. Il y a quelques juifs orthodoxes qui viennent se mélanger à cette population, des gens qui viennent d'un quartier voisin de Jérusalem-Ouest, Meaché Harim, et qui se dirigent vers le mur des Lamentations pour aller prier. C'est aussi un poumon commercial, beaucoup de magasins dans les rues voisines, mais aussi à l'intérieur. Dès qu'on passe la porte, il y a des petites échoppes, parfois de simples stands, où on peut trouver de la téléphonie, des lunettes de soleil, des fruits et légumes. des épices, également du sumac, du za'atar, du cumin, des vendeurs de café. Des effluves de café mélangés à la cardamome envahissent d'ailleurs les rues à certains endroits. Il y a aussi de simples paysans qui viennent vendre leur production au milieu des petites ruelles de la vieille ville. La porte de Damas, c'est bien plus qu'un point de passage, c'est aussi un point de rencontre. Pour accéder à la porte, il faut descendre une trentaine de marches depuis la ville moderne. Les Palestiniens aiment venir s'y asseoir à l'ombre d'un olivier, profiter éventuellement de la fraîcheur d'une soirée d'été. Et c'est aussi un point de rassemblement plus politique. De nombreuses manifestations sont organisées juste devant. Lorsque le président américain Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, c'est ici notamment que les Palestiniens sont venus protester pendant plusieurs jours. Les abords de la porte de Damas ont d'ailleurs été réaménagés par les autorités israéliennes. Elles y ont construit des petits postes de police. Il en existe 3 aujourd'hui, 2 en haut des marches, 1 en bas. Il y a de très nombreuses caméras de surveillance aussi partout. Il y a face à nous quelques policiers, derrière nous également des caméras au-dessus de nos têtes. Nous sommes observés de partout. La porte de Damas, c'est un endroit très surveillé. C'est là, sur ces marches, devant la porte de Damas, que nous retrouvons Mounir Nousaïbeh. Il est avocat, spécialiste des droits de l'homme, professeur assistant à l'université Al-Quds, l'université palestinienne de Jérusalem, située à Abu Dis, dans la banlieue est de la ville. Avant d'y enseigner, Mounir Nousaïbeh a étudié à l'université Al-Quds. À vélo, de la porte de Damas, cela lui prenait un quart d'heure ou 20 minutes. Aujourd'hui, Abu Dis se trouve de l'autre côté du mur de séparation. Il faut faire un grand détour pour franchir le poste de contrôle des autorités israéliennes. Seul un trajet motorisé est désormais envisageable, et avec les embouteillages, il faut parfois compter plus d'une heure de route pour se rendre sur place. L'université Al-Quds s'est vue attribuer un nouveau bâtiment à Abu Dis. Mais lorsque sa construction a commencé dans les années 90, ce bâtiment n'avait pas vocation à accueillir étudiants et professeurs. Il devait devenir le futur parlement palestinien.
Le processus de paix, tel qu'il avait été promis en 1993-94, était censé se terminer en
1999.
En 1999, ce devait donc être la dernière étape des négociations israélo-palestiniennes et selon leur expression, un accord sur le statut final devait être conclu. À l'époque, il était entendu que l'accord final consisterait en 2 États indépendants. C'est pour cette raison qu'un bâtiment a été construit à Abu Dis, tout près de l'endroit où Israël a fini par ériger un mur en 2002, 2003, 2004. Je ne me souviens même pas de la date à laquelle il a été complètement érigé. Et ce bâtiment était censé servir de parlement palestinien après la conclusion de l'accord sur le statut final et lorsque l'État palestinien serait devenu indépendant. Mais l'indépendance n'a jamais eu lieu. Je veux dire que l'État palestinien a été déclaré. Il a même été reconnu par les Nations Unies en tant qu'État non membre de l'ONU. Il est donc reconnu comme un État, mais il n'est pas encore indépendant. Et par conséquent, le bâtiment, qui jusqu'à aujourd'hui est resté inachevé, n'a jamais été utilisé.
Mais il y a un parlement aussi à Ramallah. Est-ce que la construction de ce bâtiment à Abu Dis, à quelques encablures de Jérusalem, c'était une manifestation du rêve palestinien d'avoir Jérusalem-Est comme capitale et qu'ils ont pensé, à un moment, toucher du doigt ce rêve?
Certainly.
Jérusalem est la capitale palestinienne. Elle l'a été historiquement. Et elle est considérée comme la capitale par tous. Et il n'y aura pas d'État palestinien indépendant sans Jérusalem comme capitale.
Le statut de Jérusalem est l'un des points les plus sensibles entre Israéliens et Palestiniens. Il n'a d'ailleurs pas été inclus dans les négociations d'Oslo et devait faire partie des négociations suivantes qui devaient aboutir à la conclusion de l'accord sur le statut final qu'évoquait Mounir Nousaïbeh. Le statut de Jérusalem a fait l'objet de négociations entre Israéliens et Palestiniens en 2000 à Camp David aux États-Unis. Ehud Barak était le premier ministre israélien, Yasser Arafat le chef de l'Organisation de libération de la Palestine, mais le sommet fut un échec. Depuis, les responsables politiques israéliens ont réaffirmé à de nombreuses reprises que Jérusalem était la capitale unie et indivisible d'Israël. Dans cette définition, la ville ne peut être partagée. Et lorsque le président américain Donald Trump a présenté une nouvelle vision d'un plan de paix en janvier 2020, le plan du siècle assurait-il, il proposait de faire d'Abu Dis la capitale d'un futur État palestinien auquel il entendait amputer encore plus de territoire. Une proposition rejetée unanimement par les Palestiniens.
This is Jerusalem. Jerusalem is the...
Voici Jérusalem. Jérusalem est la vieille ville. Tout ce qui se trouve derrière ces magnifiques murs et cette magnifique porte ici, c'est Jérusalem. Tout ce qui se trouve à l'extérieur de ces murs fait partie de Jérusalem, bien sûr. Mais en fin de compte, la vieille ville de Jérusalem est le cœur de Jérusalem. Par conséquent, toute proposition visant à faire de Jérusalem la capitale de la Palestine sans y inclure la vieille ville de Jérusalem et les lieux saints qui s'y trouvent n'est pas sérieuse. Il s'agit simplement d'une suggestion qui vous est présentée pour que vous la rejetiez, juste pour dire « Ah, vous la rejetez, vous ne voulez pas la paix ». Ils savent qu'aucun dirigeant palestinien, qu'il soit fort ou faible, ne pourra jamais imaginer un État palestinien sans que la vieille ville de Jérusalem en fasse partie. Car il ne s'agit pas de déclarer un État pour l'avoir juste pour des raisons symboliques. Si cette ville n'en fait pas partie, cela n'a aucun sens.
Depuis juin 1967, Israël a le plein contrôle de Jérusalem. Et le pays y a interdit toute activité politique palestinienne.
Aucune activité politique n'est réellement autorisée pour les Palestiniens. Tout d'abord, tous les partis politiques palestiniens sont considérés comme des organisations terroristes par Israël. Tous. Fatah, FPLP et l'ensemble de l'OLP qui, historiquement, nous représentait. Ça, c'est la première chose. Mais les Palestiniens ne sont pas des citoyens d'Israël. Oui, ils ont annexé la terre, mais ils n'ont pas annexé le peuple. Les Palestiniens ne sont que des résidents en Israël, selon la loi israélienne. Israël révoque leur statut de résident assez régulièrement et empêche les Palestiniens de transmettre leur statut de résident aux nouvelles générations, à leurs enfants. Pas toujours, mais dans de nombreuses conditions et situations. Et ils révoquent également le statut de résident sur la base de considérations politiques. Alors oui, il n'y a rien de politique que vous puissiez faire pour exprimer votre identité palestinienne. Le drapeau palestinien lui-même est interdit. Vous ne pouvez pas le porter sur vous. Bien sûr, Jérusalem a été le centre de la pensée politique et du développement politique du peuple palestinien au cours de l'histoire. La vie culturelle a toujours découlé de Jérusalem. Les journaux, toute la presse, tout le matériel provenait de Jérusalem. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Jérusalem est un espace isolé, entouré de murs qui le séparent du reste de la Cisjordanie et évidemment aussi de Gaza. Nous sommes donc isolés du reste de la Palestine et nous luttons pour notre survie.
Dans le passé, des élections palestiniennes ont quand même été organisées à Jérusalem-Est. Aujourd'hui, ce scénario est-il à nouveau envisageable ?
Il pourrait l'être très facilement si Israël acceptait et autorisait les Palestiniens à voter au Conseil législatif palestinien. Israël a rejeté cette proposition lors des dernières élections. Cela signifie qu'il n'y aurait pas d'élection du tout. Mais encore une fois, pensons aux dernières élections qui ont eu lieu. La première, au tout début de la création de l'autorité palestinienne, en 1996. Et la seconde, en 2006. Lors de celle de 2006, de nombreux membres du Conseil législatif ont été élus, puis emprisonnés. Ceux qui ont été élus à Jérusalem, trois d'entre eux, Israël a révoqué leur statut de résident et les a transférés en Cisjordanie. Ils vivent maintenant à Ramallah depuis 2006. Il y a également eu un ministre dont le statut de résident a été révoqué et qui a également été transféré. Donc, pour avoir été élus membres du Conseil législatif, ils ont perdu leur droit de vivre à Jérusalem. Israël a déclaré qu'ils avaient rompu l'allégeance à l'État d'Israël et qu'ils siégeaient dans un parlement étranger.
Le statut juridique des Palestiniens de Jérusalem est unique. La très grande majorité d'entre eux n'a pas la nationalité israélienne, mais ils ont un permis de résidence en Israël. Un permis qui peut être révoqué par Israël et les critères de révocation se sont multipliés au fil des ans. L'un des premiers critères appliqués a été l'absence prolongée. Plus de 7 ans hors de Jérusalem et le permis de résidence était annulé. Interdiction dès lors de revenir vivre à Jérusalem un jour. Idem si un Palestinien de Jérusalem obtenait un titre de séjour dans un autre pays ou une autre nationalité. Un critère politique a aussi été développé, celui de la rupture d'allégeance à l'État d'Israël. C'est celui-ci qui a été utilisé contre des élus ou des personnalités engagées dans des partis politiques palestiniens. Et celui qui pèse le plus sur la vie quotidienne des Palestiniens de Jérusalem, c'est le critère du centre de vie. Pour conserver son statut de résident, un Palestinien de Jérusalem doit prouver qu'il habite bien dans la ville, qu'il y paye ses impôts locaux, ses factures d'eau, d'électricité. Dans une ville où les loyers augmentent fortement, cela implique qu'il ne peut pas aller s'installer dans une ville voisine, une banlieue. Et cela peut aussi avoir un impact sur la vie de couple. Où vivre quand un Palestinien, qui a un permis de résidence, se marie avec une Palestinienne de Cisjordanie ? Obtenir un rapprochement familial est compliqué. C'est le cas de Walid Rishmawi. Lui est Palestinien de Cisjordanie. Sa femme, elle, a le droit de résidence en Israël. Leur solution a finalement été de trouver un lotissement qui se trouve dans un imbroglio administratif.
Après les accords d'Oslo, le quartier où nous habitons était en zone C, en Cisjordanie, mais contrôlé par Israël. Et plus tard, c'est devenu un territoire israélien, rattaché à la municipalité de Jérusalem. C'est un peu compliqué dans ce quartier, car il y a une barrière qui marque la frontière. Vous vivez en territoire israélien ou en territoire palestinien, selon où se trouve ce portail que nous avons.
Mais ce quartier se trouve du côté palestinien du mur. Il est donc accessible aux personnes qui n'ont pas de permis de passer les postes de contrôle. Les loyers y sont plus chers qu'en Cisjordanie, mais moins chers qu'à Jérusalem. Les prix et le statut singulier de ce morceau de terre le rendent attractif. 22 familles vivent actuellement dans ce quartier et d'autres habitations sont en cours de construction. Mais avoir un bail dans ce quartier ne suffit pas. Les autorités israéliennes vérifient que les personnes déclarées vivent bien là.
Ils sont venus de temps en temps, une fois ou deux, dans les premières années de mariage. Ils viennent vérifier que c'est un vrai mariage, pas un mariage blanc pour obtenir la nationalité ou la résidence. Je me souviens aussi que 2 ans après le mariage, j'ai commencé à faire des affaires aux États-Unis. Et la municipalité israélienne a appelé ma belle-mère pour demander pourquoi la facture d'eau avait baissé. Ils regardent les factures. Plus elle est élevée, plus il y a de personnes qui vivent dans l'appartement. Mais si elle est considérée trop basse par rapport au nombre d'habitants déclarés, ils posent alors des questions. Où êtes-vous ? Pourquoi vous n'habitez plus là ? Donc ils ont appelé ma belle-mère, qui a dû leur expliquer que sa fille, ma femme, était avec elle, mais que j'étais en voyage d'affaires aux États-Unis. Donc ils contrôlent ce qu'on fait.
Isolée de la Cisjordanie par le mur de séparation, administrée par Israël, qui rejette toute activité politique palestinienne, Jérusalem-Est est coupée des territoires palestiniens. Et perdre le permis de séjour implique, pour ceux qui en sont originaires, d'être coupé de sa famille, de ses amis. Beaucoup de Palestiniens yérosolimitains vivent avec la crainte de perdre l'accès à leur ville. Après la ville trois fois sainte, revendiquée comme capitale par les deux parties, nous nous rendrons dans le prochain épisode dans la bande de Gaza, enclave désormais coupée du monde. Carte d'identité, Gazaoui.